Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous proposons aujourd'hui une spéciale playlist de Libre à vous, de la musique libre avec les commentaires experts de Valentin. Avant ça, Vincent nous proposera sa réflexion à l'approche de la date anniversaire du premier confinement dans sa chronique Jouons collectif. Et en fin d'émission, nous ferons un point avec Interop sur son action contre le partenariat entre l'État et la plateforme Doctolib. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes le 16 mars 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Adrien. Salut Adrien.
Salut.
Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, et cliquez sur chat. Et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Et tout de suite, place au premier sujet. Alors, pour notre premier sujet, j'ai le plaisir d'avec moi en studio Vincent Calame pour sa chronique Jouons collectif. Est-ce que ça va, Vincent ?
Oui, bonjour Étienne.
Alors, quel sujet as-tu souhaité traiter aujourd'hui ?
Alors, comme nous sommes à la veille de la date anniversaire du confinement, je me suis dit que cela pouvait faire un sujet de chronique. Bon, évidemment, ça en fait mieux dans l'originalité. J'imagine que demain, ce sera un des principaux sujets traités dans les médias, surtout avec la menace d'un reconfinement qui plane sur l'Île-de-France. Puis nous saturons tous d'avoir ça comme premier sujet de conversation. Nous avons tous hâte d'en finir et de retourner à nos activités normales. Seulement voilà, personne ne s'attarde à se dire quand nous retrouverons une activité normale et surtout si cela reviendra comme avant. Et d'ailleurs, je crois que beaucoup d'entre nous souhaitent que les choses ne redeviennent pas juste comme avant et qu'au moins cette crise ait comme bénéfice de nous faire changer d'orientation. Bon, quoi qu'il en soit, à mon petit niveau de chroniqueur dans l'émission Libre à vous, j'ai l'impression de vivre dans la posture.
Comment ça ?
Bah, c'est que ma chronique s'appelle Jouons collectif. Et que depuis maintenant un an, en matière de jeux collectifs, bah, c'est pas terrible, comme on peut s'en douter. Certes, il y a eu une accalmie en septembre, mais le cœur n'y était pas vraiment. Et puis ça s'est fracassé sur le confinement de novembre. Bon, bien sûr, il y a les visioconférences, j'ai le droit à quelques longues interventions au téléphone pour régler des problèmes sur des systèmes d'exploitation que je ne connaissais pas et que je ne désire pas connaître plus que ça, je ne vise personne en particulier, bien sûr. J'ai eu à me faire quelques auto-attestations pour aller relancer l'ordinateur d'un compta, le seul qui devait rester allumé dans les bureaux et qui ne fonctionnait plus. Bref, rien de palpitant à se mettre sous la dent et rien de susceptible de devenir sujet de chronique. Il fallait faire surtout tourner la boutique avec les outils existants et l'heure n'est plus au lancement de nouveaux projets.
Pourtant, on a l'impression que ce qu'on pourrait appeler le secteur du numérique est sorti renforcé par cette crise, non ?
Oui, certainement. Les personnes qui travaillent dans l'informatique font incontestablement partie des groupes professionnels qui ont le moins souffert de la crise. Notamment parce que tous les outils, comme pour le télétravail, étaient déjà en place et déjà largement pratiqués. Si vous travaillez sur des serveurs accessibles par l'Internet, qu'importe le lieu où on se connecte. On comprendra donc que je ne cherche pas à me plaindre, ce serait indécent comparé à d'autres métiers. Mais même si on fait du numérique son gagne-pain, il ne faut pas trop se réjouir de son renforcement. Car nul besoin d'être un technophobe patenté ou un amiche qui s'éclaire à la bougie pour s'inquiéter de la déshumanisation portée par le numérique. Comme l'argent, le numérique est un bon serviteur et un mauvais maître. Oui, pour le numérique comme outil pour se faire rencontrer des humains et jouer collectif, justement. Non comme médiateur exclusif de nos relations. À titre personnel, en tant qu'informaticien libriste, je crois qu'il faut maintenant se penser comme un anti-geek.
Un anti-geek ? Qu'est-ce que tu veux dire par ça ?
Le terme geek peut avoir plusieurs sens, mais je pense que le plus répandu est celui de passionné de l'informatique à l'affût des nouveautés, prêt à tester des innovations. En tout cas, c'est en ce sens que je parlais d'anti-geek. Toute nouvelle innovation doit être questionnée. Et quand on possède des brides de connaissances techniques, qui sont peu répandues dans la population en général, cela oblige à le faire, donc à questionner ces innovations. Pour peu d'ailleurs que vous ayez une certaine conscience politique. le développement d'outils libres est plus lent, moins flamboyant, on ne va pas se mentir, que la dernière application à la mode qui trotte. Et c'est tant mieux, moins de clinquants et plus de robustesse, c'est la devise. La fracture numérique est une réalité, l'électronisme aussi. Alors, donc, l'électronisme, c'est l'illettrisme en matière de numérique. Et nous sommes convaincus à cette antenne que le logiciel libre est la solution. Bref, nous devons être anti-geeks dans le sens où nos passions et nos compétences ne doivent pas nous rendre aveugles à l'évolution du monde numérique. Le confinement a mis en lumière le poids du numérique et de l'informatique. À nous d'être les empêcheurs de zoomer en rond. Je salue Adrien qui est en régie, qui le mois dernier avait abordé ce sujet à l'université.
Oui, c'est périple avec Zoom. Je vois mieux ce que tu veux dire par anti-geek et vu comme ça, je ne peux que te rejoindre. Et d'ailleurs, je pense qu'au fond, ce qu'on défend et promeut à l'APRI, et plus généralement le cœur de ce qu'est le logiciel libre, c'est ça, c'est d'avoir conscience et faire prendre conscience que les choix en termes d'informatique et technologique, d'ailleurs de manière générale, sont des choix politiques. Et est-ce qu'on veut collectivement pouvoir débattre de ces choix, en être acteur et actrice, ou est-ce qu'on veut se contenter de subir les décisions d'acteurs privés comme Zoom, dont les intérêts peuvent être finalement antagonistes aux nôtres? Et on voit bien l'importance, voilà, de s'engager politiquement et d'arriver, d'amener tout ça sur le terrain du politique. Bah, merci pour cette belle chronique et ce petit point. Effectivement, un an, c'est long. mais bon, voilà, on serre les coudes et on va s'en sortir plus fort ensemble. En tout cas, merci d'avoir partagé ta réflexion avec nous, Vincent. Et puis, à nous aussi, peut-être de trouver d'autres manières de jouer collectif.
Complètement.
Nous vous proposons, alors une fois n'est pas coutume, nous allons tout de suite passer à notre sujet suivant. Nous vous proposons aujourd'hui une spéciale playlist de Libre à vous. Une sélection de musique libre que nous avons déjà diffusée dans l'émission, commentée par Valentin, lui-même musicien et co-animateur de l'émission Les Joyeux Pagans en Famille sur Cause Commune. Un échange enregistré le 4 février 2021. On se retrouve juste après, dans une cinquantaine de minutes. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en studio avec Valentin des Joyeux Pagans en Famille. Salut Valentin.
Salut Étienne.
Alors pendant la période de confinement, on avait initié des émissions spéciales La Playlist de Libre à vous, donc des musiques libres qu'on avait déjà diffusées, qu'on réécoutait et que tu nous avais commentées. Là on va enregistrer une nouvelle édition, la 8e de cette Playlist de Libre à vous, 8e si mon compte est bon. Donc on va écouter quelques musiques libres que tu vas avoir le plaisir de commenter et de nous faire partager donc ton expertise.
Avec plaisir.
L'occasion d'ailleurs pour moi de rappeler que toutes nos pauses musicales sont sous licence libre, qui permettent donc le partage librement ces musiques avec nos proches, de les télécharger parfaitement légalement, de les remixer, y compris pour des usages commerciaux. Des licences type Creative Commons Attribution, CC BY, Creative Commons Partage dans les mêmes conditions, CC BY SA, ou encore des licences art libre. Alors je précise que tu n'as pas encore écouté les morceaux que nous allons diffuser, donc c'est du freestyle comme tu nous m'avais indiqué.
Ouais, c'est ça, j'aime bien pouvoir un peu donner une part de liberté aussi, presque libre dans mes commentaires, et j'en profite juste pour dire encore merci pour l'invitation, je suis très content de faire ça avec vous, je trouve ça très chouette comme initiative, et surtout je trouve ça très chouette d'essayer de promouvoir un peu le monde de la musique libre, étant moi-même artiste et évoluant dans un milieu artistique. On a beaucoup de contraintes liées à des droits d'auteur et beaucoup aussi de manque de liberté, et du coup c'est vraiment une chouette initiative que je suis content de promouvoir à travers ces petits commentaires.
Super, bah je suis ravi de faire ça avec toi, parce que les autres émissions tu l'avais fait avec mon collègue Frédéric, ouais. Couchet, là j'ai eu du plaisir à sélectionner les différents morceaux.
Bah, super.
Et c'est toujours intéressant, on a l'impression de donner une part de soi-même aussi quand, ouais, on choisit de la musique, donc,
c'est clair.
Donc je le fais avec plaisir et un peu de réticence. Mais alors je te propose de commencer en douceur avec Island de Extents, et on va se retrouver juste après sur Radio Cause Commune, la voix des possibles.
Sur le bloc 9A du DAB+.
Qu'on finisse ce morceau sur des bruits de mouettes et de vagues, voilà, pour commencer en douceur. Et nous venons d'écouter Islands par Extends, disponible sous licence Creative Commons Attribution. Et juste préciser qu'Extends est un artiste originaire de la République tchèque qui souhaite rester anonyme et donc communique exclusivement à travers ce pseudonyme. Qu'as-tu pensé de ce premier morceau, Valentin ?
Eh bien, effectivement, on commence un peu en douceur, quoique on est mi-douceur, mi-un peu club. Hein. C'est, la douceur, quand même, peut être un peu subjective sur ce côté-là. Mais on a quand même une introduction très lunaire avec des espèces d'instruments électroniques qu'on peut appeler les pads, qui nous met dans une espèce de nuage un peu rosé, tranquille, qui nous sert de guise d'introduction, qui va être accompagné par un saxophone, cette fois en instrument acoustique, qui nous fait un peu rappeler une ambiance que pourraient poser des artistes comme Tilassine ou Beckermatt dans cette délire un peu de house, jazzy, blues acoustique. Et justement, la musique évolue avec l'arrivée de petits synthés teasers qui vont donner un côté un peu plus rythmique à la musique, jusqu'à une montée arrivée au drop. Le drop, c'est le moment où la musique part vraiment. On a l'entrée de la batterie électronique et cette fois, on est dans une rythmique très très club, très boom-tchak, boom-tchak. Et ça donne un côté très house qui confirme encore un peu cet esprit proche d'artistes comme Tilassine ou Beckermatt. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une espèce de couleur un peu rosée dans ce morceau. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être le côté un peu lunaire. On a un peu l'impression d'être sur un coucher de soleil en festival ou à la plage. Et on est dans une espèce de mélange entre de la mélancolie, mais en même temps, il y a quelque chose de dynamique. Mais bon, et aussi un peu de nostalgie. Mais ça, c'est quelque chose d'assez subjectif. En tout cas, c'était un peu le style de musique que j'écoutais beaucoup il y a quelques années, notamment avec des artistes plutôt allemands comme Paul Kalkbrenner, un mélange du coup de club en même temps un peu de mélancolie. Finalement, c'est un peu la musique de club émotive, on pourrait dire. Les riffs qui sont joués au saxophone sont assez simples, sont une mélodie avec trois notes qui joue un peu en question-réponse et qui est jouée en boucle, mais ça suffit pour nous donner une envie de bouger, de danser. On a du coup au milieu de la chanson un petit break, une pause dans la rythmique qui est une pause qui s'apparente un peu à ce qu'on avait eu sur l'introduction. Et à ce moment-là arrivent des instruments rythmiques plutôt à bois qui apportent une touche un peu plus mi-acoustique organique qui contraste avec l'aspect électronique de la boîte. La boîte à rythme et des autres synthétiseurs, mais c'est vrai que sur tout le long du morceau, on a un peu toujours ce contraste entre acoustique et électronique. Comme tu l'avais dit, sur la fin, on a eu les mouettes, mais on a eu aussi sur le break d'autres petits bruits de pluie, d'eau, d'écoulement de rivière. Ce sont des enregistrements qu'on peut appeler field recording, c'est le fait d'enregistrer des bruits. D'autres choses qui sont apparentées à l'acoustique, du coup, c'est évidemment l'utilisation du saxophone, mais aussi sur la boîte à rythme, on a l'utilisation d'un truc qu'on appelle les snaps sur le deuxième temps et le quatrième temps du rythme. Ce sont tout simplement des claquements de doigts. Du coup, on est constamment dans un peu ce mélange de musique mi-acoustique, mi-électronique, mi-club. On est sur une structure assez simple avec une introduction, un passage A qui nous fait danser, un break, un passage A prime qui nous fait danser et une fin tranquille. En tout cas, c'est bien pour commencer. Merci pour ce choix, je trouve ça très chouette. Et c'est une très belle production que j'aurais pas du tout attribué à un tchèque. Je sais pas pourquoi, mais je me serais pas dit que ça ressemble pas à ce qu'on peut trouver trop en République tchèque, même si je suis pas vraiment un fin connaisseur. En tout cas, c'est très sympa.
Bah, ravi que ça t'ait plu. C'est vraiment pour le côté rosé, parce que sur la page 5 là du morceau et de l'artiste, alors ça parle de Tropical House et l'illustration, c'est une île avec un ciel un peu rosé de fin de journée, de début peut-être, voilà, de
d'accord,
fête.
D'accord, ouais.
Que l'on peut imaginer.
Bah, ce terme tropical house, il est un peu ambigu. Moi, j'ai du mal à bien le cerner, à pouvoir définir vraiment ce que c'est. Et, du coup, en tout cas, si on avait des choses qui devaient nous rappeler les tropiques, à part peut-être l'impression d'être en vacances avec les mouettes, je vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre. Mais en tout cas, bah, très sympa. C'est vrai qu'on donne un peu ce nom à beaucoup de musique de ce type.
D'accord, je l'ignorais, je t'avoue. Je te propose de passer au
allez,
morceau suivant. Alors, on va revenir en France, on va changer de style avec La vie sans toi de Kylie Moss. On se retrouve juste après, toujours sur la radio Cause Commune, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France et sur causecommune.fm partout dans le monde.
Et alors là, t'as une petite une phrase d'introduction là, parce que t'as dit qu'on commence en douceur, du coup là ça va être quoi selon toi pour un peu
Bah tu me le diras après, je vais y réfléchir.
Okay.
C'est moins doux en tout cas.
D'accord, c'est moins doux.
T'es parti, j'ai bien cru que j'allais passer les 10 ou 15 pour
j'ai très bien chialé. Perdre mon boulot et sombrer dans la misère. Et finir en clodo à la soupe populaire. J'en suis le premier surpris, mais voilà. La vie sans toi, c'est pas si dur que ça. Tu m'as laissé choir comme une vieille crasse. J'ai foncé chez un psy pour limiter la casse. À la fin de la séance, il m'a dit: cher monsieur, vous n'avez plus besoin de moi, vous allez déjà mieux. Je n'en reviens toujours pas de me voir émerger si vite de ce brouillard. Il m'a presque rongé, dans lequel tu m'avais si soigneusement plongé. Qui coule dans tes veines de cuir. Tu n'avais pas ton pareil pour me faire me sentir plus minable qu'un verre, plus con qu'un plat de nouilles. Et moi j'en redemandais comme un crétin sans. Aujourd'hui vive la liberté, les copains et le bonheur, la légèreté, le plaisir, le beau temps et les fleurs.
D'écouter La vie sans toi par Kylie Moss, disponible sous licence Creative Commons attribution. Alors je vais préciser deux choses. Déjà, c'est qu'on a déjà eu le plaisir d'écouter un morceau de ce groupe dans une émission précédente de playlist de Libre à vous, intitulé Quand nous sommes à la taverne. Et j'ai précisé également que le chanteur s'appelle Laurent Lémens et on a eu le plaisir de l'interviewer dans l'émission Libre à vous du 21 avril 2020, émission 63, dans le cadre de son nouveau projet de Imaginary Suitcase. Pour retrouver le podcast de son interview sur causecommune.fm. Qu'as-tu pensé de ce morceau, Valentin ?
Eh bien, ouais, Imaginary Suitcase, ça me dit un truc tout de suite. J'ai l'impression que de l'avoir déjà entendu quelque part. En tout cas, là, j'ai toujours un peu plus de mal avec ce genre de musique qui mélange un peu une espèce de chanson française au style jazz rock avec un peu de ska qui me fait toujours un peu plus penser aux Aristochats. J'ai du mal à bien pouvoir en faire un commentaire, mais je vais quand même me donner avec plaisir à partager mes remarques. On est sur une entrée, du coup, avec une guitare acoustique sur un tempo globalement sur tout le morceau très très rapide. La guitare acoustique joue des accords dans ce qu'on appelle une descente chromatique. Je reviendrai plus tard pour essayer d'expliquer un peu plus ce mot. Arrive après ensuite une guitare électrique qui joue en arpège et une batterie qui va jouer sur le temps directement d'une manière du coup encore plus rapide, ce qui fait que on est comme si on était pressé complètement par le temps. Il y a un terme technique exact qui existe pour décrire ce mode de technique, mais je l'ai complètement oublié. On a aussi une contrebasse qui est derrière, qui va apporter ce côté un peu aristochat, un peu jazz rock, parce que la contrebasse est beaucoup utilisée dans le jazz, même si c'est utilisé dans plein de choses différentes. On a aussi une voix qui arrive, une fois assez grave, mais assez chaude et assez présente, presque une voix de taverneuse, qui est mi-chantée, mi-parlée, et la voix est pas, au bout d'un moment accompagnée par un violon et une flûte traversière qui va donner un peu un côté un peu plus mélodieux et féerique à cette musique. Du coup, comme je l'avais dit en introduction, on est sur vraiment une espèce de mélange entre de la chanson française avec une ambiance un peu ska. Au niveau de la rythmique, je trouve que c'est vraiment la batterie qui donne ce côté ska, mais on n'a pas de guitare qui joue sur le contretemps ou non plus d'instruments à cuivre qui sont assez présents dans la musique ska. Et une ambiance très jazz rock qui est surtout soulignée par le solo de guitare sur les trois quarts à partir de la troisième partie de la chanson, on va dire à peu près un solo qui va utiliser des notes assez employées pour le jazz, mais en même temps parfois des termes techniques, des expressions techniques qui sont plus utilisées dans le rock. En tout cas, sur tout le long de la chanson, on est sur une ambiance assez tendue, ce qui explique aussi peut-être le titre de la chanson La vie sans toi. On est sur quelque chose un peu tendu, avec du coup qui va être souligné par l'utilisation des chromatismes. On a quasiment les mêmes accords qui sont joués à la guitare tout le long du morceau. Qu'est-ce que c'est un chromatisme, Étienne?
Je ne sais pas.
J'essaie de l'expliquer. C'est tout simplement le fait de jouer des notes qui sont très proches, sans suivre forcément en fait une gamme ou une mélodie donnée. On peut, dans la musique, on peut pas jouer n'importe quelle note tout le temps. Il faut suivre certaines règles. Mais là, avec les chromatismes, on va briser ces règles et jouer des notes qui sont complètement proches. Si je vais vous chanter, du coup, ça donne. Et quand je le chante, on sent un peu ce côté un peu tendu, un peu plus stressant, qui est du coup un peu plus embelli par la guitare. Mais à la voix comme ça, tout de suite, si vous j'essaye de vous chanter les notes, ça donne complètement autre chose. Les paroles aussi apportent de la tension. Je me souviens plus trop des paroles, mais on a toujours ce côté un peu tendu. On a une alternance entre couplets très rapides, en plus du coup ce côté accéléré, pressé accentue la tension, et en même temps des moments complètement cassé, brisé, où là le temps est presque divisé par deux. Il y a un peu plus de respiration, peut-être même un peu plus de motifs mélodiques au niveau du chant, alors que contrairement dans les autres passages, là c'est plus presque parlé. En tout cas, on a un joli contraste sur tout ce morceau, une jolie ambiance un peu pressée, même si je suis moins touché par cette musique, elle est très sympathique.
Et sur le côté, tu parlais du thème de la chanson, alors sur la page Bandcamp du morceau, alors je ne sais pas si c'est l'artiste lui-même, enfin le groupe lui-même, ou si c'est un commentaire de quelqu'un qui suit ce groupe. A break-up song in French, not the usual, the sun ain't gonna shine anymore style, mind you. Donc une chanson de rupture, et ce n'est pas la chanson traditionnelle de rupture où on dit « oh, il n'y a plus de soleil, je suis triste ». Et on voit bien, je trouve effectivement, tu décris bien cette tension qu'on ressent bien à travers ce morceau.
Toi, comment tu l'exprimeras cette chanson? Parce que comment tu la décrirais? Parce que c'est, moi, j'ai toujours mes commentaires, mais c'est agréable aussi d'avoir les vôtres, tu vois.
Ben, c'est difficile parce que tu viens de donner le tien, donc je suis forcément un peu influencé. Et je trouve, disons que dans ce que tu as dit, j'ai bien ressenti cette tension et cette fuite. Cette fuite, on est pressé, on a envie de tout casser et on fonce, quoi.
Mais qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette musique en particulier? Parce que tu m'as dit en off que tu étais content de choisir les musiques.
C'est subjectif, hein. Je sais pas, ça d'accord. M'a touché. Je crois que ce côté, les morceaux très rapides, un petit peu, et peut-être chromatique, je sais pas si c'est le terme.
Ouais, si, ouais.
Dans les musiques que j'aime bien, parce qu'il y a une grande folie, je trouve que ça dégage une grande folie, et dans la musique, c'est quelque chose que généralement j'apprécie.
Et il y a des artistes que tu pourrais comparer à ça, parce que moi je connais pas forcément d'artistes dans ce milieu-là.
Alors je suis très mauvais. Alors j'aime bien écouter de la musique, j'ai des périodes en ce moment, j'en écoute un peu moins. Alors je suis extrêmement mauvais pour citer des musiques en blind test, d'accord. C'est une horreur. Total.
Okay.
Je suis celui qui a toujours sur le bout de la langue, mais incapable de donner.
Moi aussi, je suis un peu comme ça. Hein.
Donc voilà, même avec une expertise.
D'accord, ok.
Je te propose de passer au morceau suivant. Alors, toujours de la guitare, mais moins propre, on verra peut-être. Du coup, un morceau en anglais. Il s'agit de Who's That Kid by de Defy the Mole. On se retrouve juste après. Tried to kick my ass.
drugs infinitely provide a setting for the drink I ordered, soothing to my intestines. Signal with your hand to a sign. You seem like the angry type. I'm sipping at a ritual.
Alors ça se coupe un peu abruptement, mais ça fait partie, je vais revenir là-dessus tout de suite. Nous venons d'écouter Who's That Kid par Defy the Mole, disponible sous licence Creative Commons Partage Identique, CC by SA. Alors je suis Étienne Gonu de l'April, j'ai le plaisir d'être avec Valentin qui partage avec nous ses impressions sur une sélection de musique libre diffusée dans Libre à vous. Je te propose de partager peut-être les quelques impressions que j'ai eues avant que tu puisses partager les tiennes. Peut-être que je serai...
Ah ouais, grave, avec plaisir. Parce qu'en plus, là, j'ai pas trop écrit, du coup, vas-y.
Okay. Voilà, je pense qu'on est sur déjà assez simple. Alors, ça a coupé abruptement parce que c'est un morceau d'un album qui dure 16 minutes. Et en fait, enfin, c'est le genre d'album qui s'écoute dans une intégralité. Là, je pense qu'il a été découpé parce que c'est comme ça. J'imagine que ça se fait pour faire diffuser de la musique. Bref. Donc on a le morceau suivant qui passait. Personnellement, moi, j'aime bien de temps en temps me mettre un peu ces genres de morceaux un peu à l'ancienne, avec un son un peu qui gratte, du bon gros punk à l'ancienne, quoi. Clairement, c'est assez basique, je pense, en rythmique, etc. Enfin, peut-être pas, tu nous diras ce que t'en penses. Mais voilà, j'aime bien quand ça gratte un peu, quand c'est un peu sale comme ça, quoi.
Ouais, c'est vrai que rythmiquement, j'ai eu du mal à beaucoup me concentrer. Et c'est vrai que je me suis pas trop concentré sur la globalité du morceau. En tout cas, on est sur quelque chose de très classique, comme tu l'avais dit, qui nous donne tout de suite la couleur, avec une guitare très saturée qui joue un riff qui s'approche vraiment du punk, et on est dans un jeu presque dissonant avec beaucoup de Larsen qui arrive, qui donne du coup ce côté un peu crado, un peu sale, dans cette ambiance très punk qui est rajoutée par la voix du chanteur, qui est traitée comme dans un effet, comme s'il chantait à travers un haut-parleur, une technique qui était quand même beaucoup utilisée vers la fin des années 70, le moment où le punk est vraiment arrivé, et puis qui va aussi être, pour moi, il y a un côté presque Blur aussi parfois. Blur a pas mal utilisé cette technique-là. Et du coup, très sympa, mais comme pour beaucoup de groupes un peu de rock qui sont diffusés en musique libre, j'ai toujours un peu les mêmes critiques qui sont liées au mix. Le mix, le fait de comment tu vas égaliser les niveaux des volumes de chaque instrument, quelque chose qui est assez difficile à faire, assez technique, d'autant plus avec un groupe de punk qui veut donner un peu une certaine image. Et le mix manque un peu de puissance, en fait. Du coup, ça donne l'impression presque que les personnes qui jouent sont assez timides, la batterie est assez faible derrière, alors que pourtant il y a quand même un jeu qui est intéressant. La basse, elle est très dissimulée sous la guitare, on a du mal à bien l'entendre. Et à des moments, le chanteur, on a l'impression que il manque un peu de pêche. Du coup, mais je pense que c'est vraiment, du coup, c'est des mauvaises critiques, parce que c'est pas du tout l'intention qui est donnée. Je suis sûr que ces musiciens avaient vraiment la patate et voulaient un côté très sale volontaire, mais que les traitements des instruments fait que ça manque un peu de pêche, de dynamisme, et que ça fait, sans dire que ça fait un peu copier-coller ou cliché, en tout cas ça sonne un peu timide pour moi. Du coup, ce serait vraiment la critique que je fais, mais encore une fois, c'est quelque chose de très difficile à faire, et généralement la majorité des artistes qui mettent leur musique en libre, c'est qu'ils n'ont pas eu les moyens de faire appel à des gros producteurs pour traiter leur musique derrière, parce que sinon ils devraient devoir être rentables et faire payer leurs morceaux. Du coup, ceci explique aussi cela, mais voilà, sinon très sympa. Moi aussi, je suis très fan de ce genre de musique, et ça fait toujours plaisir d'avoir quelque chose un peu classique, même si on pourrait dire que c'est cliché. Ça fait toujours du bien d'entendre quelque chose comme ça qui nous rappelle ce qu'on connaît, quoi.
Oui, c'est sûr. Puis bon, je pense pour beaucoup de monde, le punk, c'est une période de vie, c'est toujours agréable de se replonger dans ce genre
c'est
de nostalgie.
Clair.
Et c'est qu'à, alors ça, c'était avant qu'on ait un programmateur musical, donc Eric Fredin d'Au bout du fil, donc on cherchait surtout avec Fred les musiques nous-mêmes, et j'avais un moment envie de trouver un peu de musique punk, tiens, pour changer un peu en musique libre. Je me disais, tiens, ça fait plutôt un style où on va trouver de la musique libre, et c'était pas si évident que ça. Penser plutôt, voilà, que dans l'imaginaire punk, on a plutôt envie de s'affranchir des grands groupes, enfin voilà, bref, du système capitaliste. je te propose de passer au morceau suivant.
Est-ce que Eric Fredin met du punk, du coup, au bout du fil?
Bah, je lui demanderai. Ah ouais. J'ai pas écouté tout ce qu'il a mis en ligne, mais il est très il dit lui-même qu'il aime bien changer de style justement, ouais, et sortir de ses zones de confort habituelles.
Bah après c'est très électro aussi, mais normalement c'est en même temps c'est plus simple de produire de la musique électronique et de la mettre sous licence libre.
Oui, je me disais que c'était plus facile d'autoproduire, c'est ça.
Bah c'est ça, ouais, c'est ça, ouais.
Ok. Oui. Vu qu'on parle là-dessus, ouais. Eh bien, donc pour le morceau suivant, on va changer radicalement de style, voilà, avec un style beaucoup plus planant, je trouve. Ça s'appelle Side Effect par Fog Lake. On se retrouve juste après, toujours sur Cause Commune. Écouter Side Effects par Fog Lake, disponible sous licence Creative Commons Attribution. Et en fait, en réécoutant, je me dis peut-être pas si radical que ça comme changement, hein, en restant sur un morceau assez simple, puis on entend chaque corde qui gratte, enfin, voilà, il y a un truc assez personnel. Et alors, très subjectif, et j'apprécie assez la voix, moi, ce côté assez androgyne, de la voix, très posée, voilà, très planant pour le coup. Et je pense que le titre Side Effect, effet secondaire, touche peut-être à ce côté planant justement. Et toi, qu'en as-tu pensé, Valentin ?
Eh bien, déjà, c'était très bref. J'étais un peu surpris par le changement à la fin, un peu direct. Mais alors, moi, je pense, même si bon, c'est toujours un peu bizarre de dire ça, je pense que c'est pour l'instant mon morceau préféré qu'on a écouté pour l'instant. Alors là, clairement, en plus, c'est agréable là, d'avoir ça, parce que sur le précédent morceau, j'étais assez critique sur ce qu'on appelle le mix, le traitement de chaque instrument, en disant que ça manquait un peu de dynamisme et du coup ça donnait un peu un côté cliché, un peu amateur presque en fait, un peu à la musique. Et là je trouve qu'on a vraiment l'opposé, le mix est extrêmement bien fait et c'est en fait le mix qui donne presque toute la richesse de la musique. On a une introduction directe en plus et on n'a pas le temps, on n'est pas là pour rigoler. Du coup c'est pour ça que je suis pas d'accord avec le côté planant, parce que ça commence direct d'un coup, on est direct transporté par une voix, des guitares, une batterie, mais tout ça dans un côté un peu calme. Du coup là on peut comprendre le côté planant parce que tout est assez calme, on n'est pas sur du gros son, on va danser, mais on est emporté, il y a un groove qui est là qui nous emporte complètement. Et tu as parlé des cordes frottées, et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve très agréable. On entend presque plus les cordes frottées que les notes, et pourtant il y a quand même quelque chose qui nous emporte. Il y a une espèce de discrétion, de subtilité, et qui est très agréable, qu'on retrouve aussi dans la voix qui est androgyne comme tu l'as dit, mais qui est aussi assez en retrait finalement, qui est aussi traitée avec un effet qui donne l'impression qu'elle chante, la chanteuse chante un peu sous un haut-parleur. Mais malgré le fait qu'elle soit en retrait, on sent une vraie intensité dans sa voix, une vraie chaleur qui emporte encore plus. Et c'est très subtil, mais j'ai l'impression que la voix a été doublée aussi par un homme derrière. Tout ça, ce qui rajoute en fait une vraie couleur et une vraie puissance à la voix. Et là où la preuve que le mix est bien fait, c'est que malgré ce côté un peu en retrait, ces effets, on sent toute la puissance du morceau. On n'est pas du tout, on s'ennuie jamais, alors qu'en fait c'est quand même globalement les mêmes motifs qui se répètent du début jusqu'au moment où presque c'est la fin. Mais justement, ce traitement sur les instruments, à certains moments, on entend vraiment des différences où certains instruments sont plus mis en avant que d'autres. Et il y a des changements un peu brutaux qui se font de cette manière-là, mais ça fait que on n'est pas du tout choqué, on est complètement emporté, on s'ennuie pas. Peut-être que la conclusion est peut-être un peu expéditive, un peu bref. Peut-être qu'on tombe un peu d'un coup comme un cheveu dans la soupe. Mais à part ça, franchement, très très beau morceau, très bon choix.
Bah moi j'ai beaucoup accroché aussi. Alors peut-être que le côté bref, tiens, parce que c'est là je suis sur la page Bandcamp et c'est que des morceaux très courts, peut-être à une exception près. Et de mémoire, ça fait quelques temps que je l'ai pas écouté. J'aurais peut-être dû le réécouter dans son intégralité. Je crois que c'est vraiment cette idée de morceaux qui s'enchaînent, donc qui s'écoutent dans une.
C'est
dans une
très
succession.
Très intéressant, ouais.
Donc à réécouter peut-être, voilà. Bah, on vous invite en tout cas, j'ai un bon souvenir de l'album qui s'appelle Dragon Chaser. On retrouve peut-être une thématique avec le côté d'effet secondaire. Enfin voilà, bah, écoutez, ravi que ça t'ait plu.
Ouais. Et Side Effect, j'ai oublié ce que c'est, mais c'est aussi un terme technique qui fait référence à tout le milieu du coup du mix, l'ingénierie du son, du traitement sonore en fait. Je sais plus ce que c'est, mais c'est un terme technique qui vient de ça.
Eh bien, écoute, je crois que nous avons tous accès à une base de données. on regardera ça, ouais. Alors, pour le coup, on va passer aux suggestions. Pour le coup, là, le changement va être radical. On part sur de la musique électronique. Tu en parlais avant. Tu me diras ce que t'en penses. En tout cas, moi, c'est le genre de musique qui me pousse à battre le rythme de la tête. Il s'agit d'Inception par Clone Me Twice. On se retrouve juste après sur Radio Cause Commune. Nous venons d'écouter Inception par Claude Me Twice, disponible sous licence Creative Commons, partage à l'identique CC BY SA. Alors Claude Me Twice fait partie de ces artistes repérés pour nous par Eric Frodin du site auboutdufil.com que je mentionnais. Donc il est le programmateur musical pour Libre à vous depuis septembre 2020. Et d'ailleurs je vais en profiter pour remercier Eric pour toutes les pipites libres qu'il déniche. Je vous propose d'ailleurs, pour valoriser aussi son travail, de vous lire un court extrait de ce qu'il a écrit sur Claude Me Twice. Alors sous ce pseudonyme alambiqué se cache un jeune artiste d'à peine 20 ans, originaire de Vienne, dont le véritable nom est Kilian Mayer. Si vous connaissez déjà, c'est peut-être sous son ancien pseudonyme C5. Claude Me Twice a beau être jeune, il a plus d'une corde à son arc, il est batteur, compositeur, producteur, réalisateur ou encore auteur. Passionné de musique, notamment électronique, il a vite compris qu'il était aussi à l'aise sur un logiciel informatique qu'avec un instrument dans les mains. Il a commencé à produire de la musique très tôt, alors qu'il était à peine adolescent. Donc c'est un extrait de auboutdufil.com sur l'artiste Claude Me Twice. Qu'as-tu pensé de ce morceau, Valentin ?
Alors déjà, tu as mis ce morceau en disant que c'était quelque chose tout de suite qui touchait, qui donnait envie de bouger la tête. C'est ça ?
Ouais, un truc qui fout la pêche en fait, qui me prend, qui est sain peut-être dans l'apparence, peut-être pas tant que ça, mais en tout cas qui tout de suite me fout un peu la pêche, me fait bouger la tête. Si je suis sur une tâche un peu bête, ben voilà, je le fais avec plus d'enthousiasme, quoi qu'il en soit.
Ouais, moi c'est l'inverse, je rigole. C'est vrai, objectivement c'est une musique électronique qui me touche vachement moins. Je suis moins du coup moins touché, moins à fond derrière ça, mais par contre je dois avouer que je suis étonné du coup d'apprendre qu'il est aussi jeune, parce que c'est très très bien produit. Par contre d'un point de vue objectif, il n'y a rien à dire quand même, c'est assez bien fait, c'est même assez impressionnant, parce qu'il y aurait énormément de choses à dire sur cette musique, peut-être même un peu trop, c'est peut-être ça son défaut en fait, elle bouge dans plein de styles différents, c'est assez impressionnant. Et on pourrait lui coller plein d'étiquettes, ce qui serait assez dur, du coup, assez dur de la coller. Mais c'est là où moi je suis. Le côté que j'aime bien, c'est ce côté multi-casquette, multi-étiquette, justement. On a une introduction avec des synthétiseurs qu'on appelle un peu 16 bits, en fait, qui sont du coup un peu les synthés crado qu'on pouvait avoir sur la Game Boy ou sur les jeux un peu à l'ancienne. Je pourrais pas vous expliquer un peu que. Pourquoi c'est comme ça, c'est des termes techniques d'acoustique, mais en tout cas, on a tout de suite cet univers qui nous plonge presque dans un univers un peu Tetris, mais on est sur une ambiance globalement qui se rapproche plus de l'Eurodance. L'Eurodance, c'est un style de musique qui s'est développé, un espèce de mélange entre la disco et la techno, qui pour moi peut sonner un peu cliché, mais bon, qui quand même était beaucoup utilisé. Le vrai cliché de l'Eurodance, pour vous donner un exemple, c'est l'artiste Cascada. Mais là, on est quand même loin de Cascada, mais on trouve cette ambiance Eurodance, mais on a quand même d'un coup une guitare électrique qui arrive dans un truc un peu plus, une ambiance un peu plus punk, qui donne du coup presque une impression plus électropunk, comme pouvait l'aborder le groupe italien, les Body Beatroots, dans la fin des années 2000. Et en même temps, on balance dans plein de styles musique différents. On a parlé de l'Eurodance, l'électropunk, on a aussi quelque chose qui se rapproche du glitch hop, de la trance, parfois utilisé par des synthétiseurs qui se rapprochent plus de la trance, parfois même presque art tech, avec du coup un martèlement de la grosse caisse du kick qui nous emporte presque avec un son un peu saturé. On n'est pas sur un tempo art tech, mais quand même globalement quelque chose parfois un peu sale. On navigue entre plein de styles de musique différents. Du coup, c'est ça pour moi la vraie richesse de cette musique, ça nous emporte. Presque ça peut être son défaut, mais en tout cas très bien produit, surtout pour quelqu'un de assez jeune. Justement, les logiciels de musique, ça permet de pouvoir s'essayer à plein de choses, de casser un peu les barrières, les codes. Cette musique qui globalement pour moi pourrait très sonner, aurait pu complètement dater de la fin des années 2000. Du coup, c'est intéressant en plus de voir que du coup c'est quelqu'un de vraiment qui est presque pas connu musicalement ces périodes-là qui compose ça, mais du coup c'est moi c'est chouette, ouais. Mais moi, ça me touche moins.
Ouais, les goûts et les couleurs, quoi.
Oh, mais c'est ça, ouais.
Et c'est vraiment parce que la première fois que je l'ai écouté, j'ai tout de suite ressenti ce côté Game Boy que tu mentionnais, un peu old school.
C'est
et
clair, ouais.
Et le fait qu'il soit de Vienne, ça t'a surpris pour le coup? Alors, tu étais étonné?
Alors, non. Non, les Autrichiens, ils ont la rigueur germanique qui font que très tôt ils font des choses très impressionnantes. Et et puis Vienne, c'est le carrefour entre l'Europe de l'Est et l'Europe plus de l'Ouest. Et du coup, c'est un carrefour de plein d'influences musicales riches et variées. Et c'est sans oublier que les plus grands compositeurs de musique européenne occidentale viennent de Vienne. Du coup, rien de surprenant à ça.
Ok. Bah pour le morceau suivant, tiens, je te propose de choisir entre une autre musique électronique beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, enfin, c'est mon ressenti, peut-être que tu le contrediras, ou de la musique française un peu Alors, je saurais pas trop la décrire, voilà. Je suis en français, on verra. Je suis pas très doué pour décrire.
Et c'est
ça,
moi
ça,
qui dois choisir.
Bon, on aura peut-être le temps de passer les deux, mais là, t'as plutôt envie de quoi?
Vas-y pour la chanson française.
Allez. Alors, il s'agit d'Oublier par Paul Prince Ringard. On se retrouve juste après, toujours sur Cause Commune.
Oublier le béton, s'enfuir loin de la zone, de cette vie de con quand tu n'es plus personne. Avec tous nos potrons et ta sœur la misère, flinguer tous les macros, s'inventer les chimères. Oublier la police, des matins qui déchantent. Oublier les sévices, les flics et les patentes. Vomir sur le FN, la secte des vampires. À l'amour, à la haine, sans jamais nous trahir. Oublier que la mort se traîne au QHS, dans le gris des aurores, dans les yeux des gonzesses. Oublier sans y croire un passé que tu traînes. Toujours les mêmes cafards, toujours les mêmes chaînes. Oublier les frangines, bien trop cher pour ta gueule. Pouliche de magazine, habillé chez Bagel. Râpé sur le bitume des allumés de la nuit. Sans carbure et sans thune, au mi-temps de nos vies. Oublier la cité, les projets incertains, les fonctionnarisés, relookés par Cardin. Zapping sur pointe à con pour le pot SDF. La mort est au balcon pour le fric, pour les jeunes. Que ta peau n'est pas cotée en banque. T'es né dans le ruisseau, tu seras toujours un bronque. Mais tu leur pisses où je pense, aux bourgeois de l'ennui. Au maréchaux de France, toi tu veux qu'on t'oublie. Oublier le béton, s'enfuir loin de la zone, de cette vie de con quand tu n'es plus personne. Avec tous nos potos et ta sœur la misère, flinguer tous les macros, s'inventer les chimères. Oublier, oublier, oublier. Oublier, oublier, oublier.
Nous venons d'écouter Oublier par le Prince Ringard, disponible sous licence Art Libre. Je suis Étienne Gonu de l'April et nous discutons avec Valentin de musique libre que nous avons diffusée dans Libre à vous. Qu'as-tu pensé de ce morceau, Valentin?
Du coup, t'as dit chanson française. Qu'est-ce que tu rajouterais de plus à ça, là?
Je réfléchissais un peu pendant le morceau et j'ai beaucoup de mal à décrire. Il y a un côté punk peut-être, dans les paroles et dans le côté peut-être faussement sain de la musique. J'aime bien le côté, le petit, je pensais de l'harmonica.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ça rajoute, et puis j'aime beaucoup sa voix en fait,
qui
traduit, je sais pas, et qui donne une ambiance et qui correspond bien à cette idée oubliée qu'il répète à la fin, et je trouve que ça me parle en tout cas.
Ouais, c'est clair, moi aussi ça m'a beaucoup parlé, je pense que du coup ça là c'est le deuxième morceau préféré de ce qu'on diffuse, du coup je suis content de mon choix d'avoir choisi cette musique, vraiment belle découverte, merci. Effectivement, chanson française, mais aussi une inspiration un peu blues en fait, qui est soulignée par l'harmonica, par la guitare, la basse, la batterie, et cette voix très rauque, très forte, qui j'arrive pas à dire minute, mais en tout cas très rauque, qui ressemble. Moi, je trouve qu'elle ressemble vachement un peu à la voix du chanteur de Trust, surtout plus aujourd'hui qu'avant, parce qu'avant il avait une voix un peu plus peut-être aiguë, mais maintenant qu'il a pris de la bouteille, le chanteur de Trust, je trouve qu'il a presque la même voix. J'aurais pu croire que c'est lui qui avait chanté. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une guitare et une batterie qui jouent de manière très simple, qui jouent à peu près la même chose tout le temps, très simple, et ça laisse beaucoup de place et d'espace pour mettre d'autres choses, et ça c'est vraiment une vraie richesse d'écriture. On a une basse qui est très très mélodique en fait, qui est beaucoup plus mélodique que la guitare, alors que d'habitude c'est un peu plus l'inverse, et je trouve ça très intéressant d'avoir fait ce choix là et aussi d'avoir laissé autant de place. Ça laisse, du coup ça met en avant vraiment la voix et le texte. Je trouve que c'est impressionnant comme on sent encore l'écho, la trace du chanteur, même quand il chante pas, une fois qu'il termine ses phrases, c'est comme si c'est les phrases qu'il chantait restaient un peu dans les airs avec nous et se dissipaient tout doucement, la voix se dissipe, mais l'harmonica vient tout de suite répondre comme un jeu de questions-réponses. Tout ça, ça crée beaucoup de poésie qui est aussi soulignée par justement les textes comme tu parlais. Du coup, on est sur quelque chose de vraiment un bel ensemble qui marche bien. Ça file droit, on sait où on va, mais on pourrait presque l'écouter en boucle, ça nous dérangerait pas. C'est vraiment très très agréable et franchement bravo, c'est très chouette.
Alors j'ai oublié, alors, quand on avait diffusé ce morceau, l'artiste avait nous avait remercié d'avoir diffusé son morceau, il avait envoyé un scellé dédicacé à Fred, voilà, donc
carrément.
Pareil, diffuse librement sa musique quoi.
Ah ouais. Si tu veux m'envoyer un CD dédicacé, moi je suis pas contre non plus. Hein.
on lui en fera part, on diffusera le morceau. Écoute, on peut passer, du coup on a le temps de passer au morceau suivant. On va écouter, puis on verra ce que tu en penses ensuite. Il s'agit de Room 308, je sais pas comment ça se prononce, par AeroCity. On se retrouve juste après. venons d'écouter Room 308 par AeroCity, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Du coup, j'ai un doute sur comment j'ai qualifié ce morceau, à la fois sur son côté électronique et à la fois sur son côté posé. Je ne sais pas ce que tu en as pensé.
Ah bah, je suis absolument d'accord. Absolument d'accord, effectivement, très posé, qui est souligné par ce son de piano et un piano, c'est pas un piano seul, c'est un piano qui est avec une espèce, comme si on avait amplifié le son du marteau qui frappe sur la corde, parce que c'est comme ça que marche un piano, comme s'il y avait un autre instrument qui était doublé avec, qui apporte un côté un peu rêveur, avec en plus l'ambiance planante qui est prolongée par des synthétiseurs nuageux, et chaque touche du piano est aussi un peu prolongée par un effet derrière la touche, ce qui fait qu'on est complètement un peu comme dans un rêve. C'est très très posé, très planant, on sent toujours un peu une présence un peu électronique qui est marquée par la deuxième partie du morceau, alors qu'on a l'impression qu'on est surtout sur un piano sol. Là, d'un coup arrivent des petites percussions très discrètes dans le fond du casque et en même temps une basse encore discrète mais puissante. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le piano, on n'a pas l'impression qu'il est joué de manière un peu classique, on a un peu l'impression que quelqu'un tapait sur les notes. Ça m'a pas fait penser à la manière de jouer qu'on peut avoir sur cet instrument, je crois qu'il s'appelle le hand drum, j'ai oublié un peu le nom, mais c'est, vous voyez un peu la soucoupe volante qui donne un son très joli aussi. On a presque l'impression que du coup quelqu'un tapait sur le piano plutôt qu'il jouait, dans la manière dont c'était joué rythmiquement. J'ai trouvé ça vraiment très très joli, très beau choix. Ça me fait beaucoup penser à l'album qu'on fait en duo, les artistes Murkoff et Vanessa Wagner. On est sur exactement la même ambiance, un piano qui est rajouté par des effets, des percussions discrètes et des synthétiseurs. Moi, je suis très sensible à ce genre de musique. Merci pour ce choix.
Bon, bah, j'ai beaucoup apprécié ce côté un peu onirique que tu décrivais.
Ouais, c'est,
quoi.
Absolument.
Par ailleurs, quoi, on rêve un peu. Et ça s'appelle un handpan.
Ah, c'est ça.
Alors,
c'est
je sais ce que ma compagne vient de m'en offrir un pour mon anniversaire.
Oh, félicitations.
Et c'est un côté très organique, très
ouais,
relaxant.
Ouais,
c'est très chouette.
Dans ma tête, j'avais handpoke, mais ça, c'est le fait de se tatouer avec une aiguille, en fait.
D'accord.
Du coup, ça n'a rien à voir.
Ça produit pas les mêmes sons, sans doute. Ouais. Je regarde le temps que nous avons. Ouais, je pense que nous arrivons sur la fin de cette 8e édition de la playlist de Libre à vous. Un grand merci, Valentin.
Merci à toi pour l'invitation.
Avec plaisir. Hein,
bah, du coup, sur la prochaine, tu nous feras un concert de handpan.
On verra, ouais. Avec plaisir. Je rappelle quand même que tu animes des émissions, toi aussi, sur Cause Commune, notamment les Joyeux Pingouins en Famille.
C'est ça, rendez-vous tous les jeudis à 21h pour les Joyeux Pingouins en Famille et tous les dimanches à 18h pour l'émission Tintamarre. Cette fois, c'est moi qui fais les playlists. Je parle pas tout le temps, mais en tout cas, c'est moi qui vous fais une sélection un peu précise selon une ambiance, une atmosphère. Et c'est tout simplement le joie d'écouter et de partager de la musique.
Super. Tu peux nous rappeler les deux rendez-vous, du coup ?
Du coup, le jeudi à 21h et le dimanche à 18h.
Ok, super. Bah, bonne fin de journée à toi, Vincent.
Merci, salut.
Salut. J'espère que ça vous a plu. Un échange enregistré le 4 février 2021. Vous retrouverez les références des musiques commentées, ainsi que la playlist intégrale des musiques diffusées dans Libre à vous sur le site, sur la page pardon, dédiée à l'émission sur april.org et sur causecommune.fm. Vous écoutez toujours Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April, et nous allons passer à notre sujet suivant. Alors pour notre dernier sujet, j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Adrien Parot de l'association Interop et Juliette Alibert, avocate au barreau de Paris. Vous êtes avec nous, bonjour.
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 Super. Alors voilà, nous allons avoir le plaisir de discuter, l'intérêt de discuter avec vous du recours que menait l'association de promotion du logiciel libre pour la santé, Interop, contre un partenaire entre l'État et la plateforme Doctolib pour la prise des rendez-vous pour la vaccination contre le Covid-19. Et nos auditrices fidèles se rappelleront sans doute que nous avions déjà reçu Interop, qui avait fait un recours également contre le Health Data Hub, une plateforme pour la recherche sur les données de santé, parce que cette plateforme hébergeait ces données chez Microsoft. Donc ce coup-ci, c'était à l'époque un recours victorieux, puisque le Conseil d'État avait enjoint la plateforme à trouver une autre solution d'hébergement qui ne soit pas soumise au droit américain. On y reviendra sans doute. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce recours donc contre le partenariat entre l'État et Doctolib? Adrien Parot.
Du coup, donc en effet, on a attaqué donc au Conseil d'État à nouveau ce recours, juste pour dire qu'on était associé à 13 autres parties, dont des syndicats de médecins et de patients et la Ligue des droits de l'homme aussi qui était avec nous. Et donc la problématique, en fait, ce sont des sujets tout à fait connexes entre le S-Datahub hébergé chez Microsoft et le partenariat dans le cadre de la prise de rendez-vous chez Doctolib en l'occurrence, puisque Doctolib est hébergé cette fois-ci pas chez Microsoft, mais chez Amazon Web Services, qui est le cloud d'Amazon. Et donc, en fait, c'est sur les mêmes fondements qu'on a attaqué ce partenariat, qui sont le recours à des sociétés soumises aux droits américains et donc non soumises strictement aux droits européens, comme devraient l'être, à notre sens, les sociétés qui hébergent des données de santé.
Alors pourquoi justement est-ce que ce serait un problème que ces données, donc qui concernent les prises de rendez-vous pour la vaccination, soient hébergées chez Amazon ?
Peut-être Juliette.
Oui, en fait, ce qui est problématique, c'est la même problématique que dans le cadre du contentieux sur le S-Datahub que vous avez rappelé. C'est effectivement que, en l'état, le droit américain, de par ses effets extraterritoriaux, ne permet pas de garantir un niveau d'adéquation en termes de protection équivalent au RGPD. Et notamment au regard de certaines lois qui permettent aux autorités, aux services de renseignement d'avoir accès aux données sur le fondement du FISA ou de l'executive order. Donc le fait qu'effectivement Doctolib héberge ses données personnelles, ses données de santé au sein d'une société soumise aux droits américains, ça veut dire que dès lors qu'il y a ces demandes sur le fondement des deux bases légales que j'ai rappelées, effectivement, les données se retrouvent aux États-Unis en méconnaissance du RGPD. Donc ça, c'était problématique.
Donc le RGPD, qui est la réglementation européenne qui gère, qui régule un peu l'usage que les entreprises peuvent faire des données personnelles, enfin les entreprises d'ailleurs, n'importe quel acteur, si on résume à gros traits. D'ailleurs, je mettrai le lien en référence, tous ces sujets nous sont notamment traités dans la chronique d'Noémie Berger, chronique mensuelle sur Libre à vous, et qui pourrait permettre aux personnes qui s'intéressent de creuser le sujet. Et il serait peut-être intéressant, parce que là vous parlez d'extraterritorialité, donc en gros comment le droit européen peut s'appliquer à des entreprises étrangères, c'est ça l'idée ?
Là en l'état, c'est effectivement, on a des données qui sont hébergées sur le sol français, sur le sol européen, parce qu'elles sont, enfin, les sociétés sont hébergées, et donc les données sont hébergées sur le sol français européen. Mais comme c'est des sociétés dont le siège social est aux États-Unis, elles sont soumises au droit américain. Et donc, sur la base de la section 702 du FISA, par exemple, il est possible à tout moment, par les autorités américaines, de demander un accès auprès de ces grosses sociétés aux données, et même à imposer à ces sociétés de taire l'accès à ces données, c'est-à-dire de le faire sans que les citoyens européens soient informés. Et sur la base de l'executive order, c'est complètement différent. C'est directement qu'en fait ces autorités-là peuvent se servir, peuvent en fait une espèce de pompe, elles peuvent pomper directement les données. Et donc c'est ce qui a donné lieu à une jurisprudence importante, la jurisprudence Schrems II cet été, qui, au regard de ces ingérences-là, fait valoir que dès lors qu'une société qui héberge les données à caractère personnel est soumise aux droits américains, c'est totalement incompatible avec le RGPD.
Et la fameuse fin du Privacy Shield, c'est bien ça ?
Exactement.
Oui, comme on a beaucoup parlé. Et du coup, si je me rappelle bien, cette décision de Schrems II est intervenue juste avant une décision du Conseil d'État dans le recours d'Interop et de d'autres personnes, d'ailleurs dans un collectif Santé Nathan, contre le S-Datahub. Et c'est sur la base de cette jurisprudence que le Conseil d'État a donné raison au collectif Santé Nathan, ou je me trompe ?
Si tu veux intervenir, Adrien, vas-y. Le référé, c'est un référé liberté, il y a une décision de rejet, mais en même temps, en substance, à ce moment-là, le juge a reconnu, au regard de la jurisprudence Schrems II, qu'effectivement les risques étaient réels, et il a simplement laissé un délai raisonnable pour que le S-Datahub soit hébergé auprès d'un autre hébergeur, donc changer et passer de Microsoft à notamment un hébergeur soumis au droit français, au droit européen en tout cas.
D'accord. Et par contre, du coup, alors là, quand on revient maintenant au présent, donc vous nous faisiez part effectivement de grandes similitudes, hein, les problématiques, la problématique étant similaire, c'est-à-dire un hébergement chez une entreprise soumise aux droits américains, et pourtant la décision du Conseil d'État n'a pas été la même.
Oui, en effet, la problématique que l'on essaie de soulever est vraiment systémique et donc aussi pour redire, on n'est ni contre la recherche, ni contre la prise de rendez-vous ou l'utilisation d'outils numériques. Par contre, on veut vraiment faire prendre conscience des risques liés à ces textes de portée extraterritoriale, donc qui s'appliquent directement sur le droit, enfin sur les serveurs hébergés, même si les serveurs sont hébergés en France. La décision ne va pas exactement dans le même sens que celle du Conseil d'État, de la précédente décision sur le HDH, sur le Health Data Hub. Dans le cadre de ce recours, on a demandé plusieurs fois à ce que la CNIL, à l'écrit et à l'oral, lors de l'audience, Juliette Alibert l'avait fait en tant qu'avocat, les parties l'avaient demandé, que la CNIL soit saisie pour que la CNIL puisse donner un avis dans un cadre différent lors de l'audience au Conseil d'État en octobre dernier. C'était sur les entrepôts de données de santé que la CNIL avait donné son avis, donc un sujet connexe parce qu'il y a de l'hébergement de données, mais ce n'était pas exactement le même cadre. Donc on voulait un avis juridique de la CNIL sur l'hébergeur, en l'occurrence Amazon, et ça malheureusement on ne l'a pas eu, on n'a pas réussi à l'avoir. Et c'est vrai que moi personnellement je suis très déçu que cet avis n'ait pas eu lieu. Il aurait été sûrement aidant d'un point de vue juridique et d'un point de vue technique aussi pour analyser exactement la sécurité de la plateforme de prise de rendez-vous.
Oui, bien sûr. Et on rappellera, bon, je pense que la plupart des gens connaissent la CNIL, mais au cas où, qu'il s'agit donc d'une administration, une autorité administrative indépendante, la Commission nationale informatique liberté, et qui a pour objet de faire appliquer le règlement général de protection des données personnelles. Et elle avait donné effectivement un avis, donc tu le rappelais, Adrien, dans le premier recours contre le Health Data Hub, et qui était effectivement qui allait fortement dans le sens que vous indiquiez, et qui levait beaucoup de drapeaux rouges par rapport à la situation d'un hébergement chez Microsoft, si je me souviens bien.
C'est ça exactement. Elle disait que l'hébergement des données de santé du HDH, du Health Data Hub, devait être strictement soumis à des entités relevant uniquement du droit européen. C'est vrai que c'est clairement un avis qui allait dans le sens de nos inquiétudes et de ce que l'on dénonçait. J'ajoute aussi que la CNAM, donc la Sécurité sociale, parce que avant d'envoyer des données au Health Data Hub, il y a une étape pour une partie des données, mais une grosse partie, une étape où c'est la Sécurité sociale qui doit donner son accord pour envoyer les données au Health Data Hub. Et j'ajoute que donc la CNAM, il y a peut-être maintenant 3 semaines, à cause des problématiques juridiques que Juliette Alibert a mis en valeur, donc le FISA et l'executive order, a décidé de bloquer l'envoi des données au Health Data Hub. Le conseil d'administration de la CNAM a décidé de bloquer l'envoi des données au Health Data Hub parce qu'il était soumis à une société américaine et parce que c'est Microsoft, en l'occurrence Microsoft.
Oui, une décision concrète très importante. Oui. Et alors du coup, comment vous expliquez cette différence? Alors, comment déjà le Conseil d'État, quel changement de paradigme utilise le Conseil d'État pour arriver à une conclusion différente sur des sujets qui ont l'air finalement assez similaires? Et comment vous l'expliquez, cette différence de décision? Juliette Alibert, peut-être. Déjà sur le fond juridique, déjà.
Alors, c'est vrai que d'emblée, ça s'inscrit effectivement dans la lignée du contentieux sur le Health Data Hub, mais en même temps, il y a des différences qui sont essentielles, qui sont majeures, puisque, alors, d'une part, les données traitées par Doctolib, elles sont pas pseudonymisées comme c'était le cas sur le Health Data Hub, et ça, c'était important de le marquer, parce que du coup, ça veut dire qu'elles sont directement identifiantes. Donc ça, c'était un point vraiment différent. Et ce qui s'est passé, c'est que le juge a considéré dans son ordonnance que d'une part, les données de prise de rendez-vous dans le cadre de la politique vaccinale, dans le cadre donc du partenariat entre le ministère de la Santé et Doctolib, pour gérer les rendez-vous, pour prendre rendez-vous pour les vaccins, n'étaient pas des données de santé. Donc ça a donné lieu à ce moment-là, en fait, lors de l'audience, il y a eu un long débat. Les parties, moi-même, on a fait valoir qu'effectivement, c'était bien des données de santé, puisque directement, le fait de répondre à la question, est-ce que la personne a eu une première et une deuxième injection ou non, ça renseigne bien directement sur l'état de santé de la personne, mais même indirectement, puisque les personnes, dès lors qu'elles ont un compte associé préexistant, il suffit de croiser l'ensemble des données, puis on sait effectivement, notamment si elle était plus, enfin pourquoi elle était, elle a pu avoir une première injection en tant que public prioritaire. Enfin rien qu'au moment en fait où elle se fait vacciner, on peut en déduire que du coup elle était public prioritaire parce qu'elle souffrait d'une pathologie importante parce qu'il y avait une liste de pathologies pour avoir droit au vaccin. Donc ça c'est un des raisonnements du Conseil d'État. Peut-être Adrien pourra me compléter, mais vis-à-vis duquel on est extrêmement inquiet parce que ça signifie donc qu'aujourd'hui les données que sont les rendez-vous ne sont plus considérées comme des données de santé. Ou en tout cas ça ouvre cette brèche-là. Alors là, on nous dit que c'est que pour la politique vaccinale, mais ça ouvre cette brèche qui est très inquiétante. Et du coup, ça crée un risque majeur d'atteinte demain au secret médical. Et ensuite, mais peut-être, je ne vais pas être trop long, on peut en discuter après, mais ce qui s'est passé, c'est que le juge, dans sa décision, a fait valoir qu'il y avait des garanties contractuelles suffisantes, notamment un contrat entre Doctolib et Amazon qui permettrait en tout cas, a priori, à Amazon de notifier la société Doctolib si elle avait des demandes d'accès par les autorités américaines, ou en tout cas d'essayer de s'y opposer, alors même que quand on lit le FISA, par exemple, on se rend bien compte que de toute façon, sur la base de ce texte, les autorités américaines peuvent directement demander à Amazon de taire ces demandes. Donc on voit pas vraiment comment c'est en quoi c'est une garantie. Et en termes de garantie technique, ce qui a été mis en valeur par l'ordonnance du juge, c'est qu'en fait, il y avait de toute façon un jeu de clés détenu par une société tierce de confiance et que ça suffisait. Mais si vous voulez, lors de l'audience, il y a eu 2 heures d'échange sur les aspects juridiques et aussi sur les aspects techniques. Et j'aimerais vraiment que Adrien puisse compléter juste ensuite sur tout ce qui était chiffrement. Et en fait, c'est vrai que dans l'ordonnance, tout ça est réduit en tout petit paragraphe. Et je trouve que c'est dommage, en fait, parce qu'il y a énormément de questions qui étaient posées. Et on a fait valoir, effectivement, qu'à devait être saisi et ça n'a pas été le cas.
On voit déjà aussi, pour rebondir sur le fait de un manque de l'avis de la CNIL, et on voit bien, on devine, même sans être spécialiste du sujet, tout l'enjeu qu'il peut y avoir à considérer qu'effectivement, que les données par rapport à un rendez-vous médical puissent être considérées comme des données personnelles, et tout le danger qu'il y a à considérer qu'elles ne le sont pas, qu'elles n'ont pas cette sensibilité-là. Et effectivement, on sera vigilant à voir les évolutions jurisprudentielles qu'il pourrait y avoir par rapport à tout ça. Alors effectivement, en suivant, et je pense qu'Adrien aura beaucoup à nous dire là-dessus, et sur un sujet qui est difficile, celui de la cybersécurité. Donc si j'ai bien compris, donc pour reprendre les propos de Juliette Alibert, une des justifications pour dire que finalement le contrat était OK par rapport au RGPD, c'était de dire que voilà, il y avait des clés de chiffrement, donc que les données n'étaient pas accessibles, à moins d'avoir ces clés pour déchiffrer les données. Mais évidemment, Interop a fait un travail de fond très important pour montrer finalement que non, c'était pas satisfaisant d'un point de vue de sécurité. Donc Adrien, tu as la lourde tâche de rendre accessible à des personnes non compétentes, non spécialistes de la cybersécurité, tout cet enjeu.
Donc en effet, pour rebondir juste rapidement sur les rendez-vous, dire que les rendez-vous ne sont pas des données sensibles et des données de santé ne s'appuie sur aucun argument en lien avec le RGPD, avec le règlement de protection des données. Le RGPD définit des données de santé comme étant en lien directement ou indirectement avec un état de santé. Donc déjà, la définition est très large pour être protectrice pour les personnes. La CNIL et l'Ordre des médecins, dans un papier commun, avaient clairement dit que les rendez-vous sont des données de santé. Et voilà, encore une fois, dire que des rendez-vous de vaccination ne sont pas des données de santé. Alors, est-ce qu'un rendez-vous de gynécologue, de proctologue est une donnée de santé? Est-ce que le cardiologue est une donnée de santé? C'est des sujets. Je pense que c'est très dangereux de commencer à différencier des données de santé comme ça, un peu de façon sans fondement réel juridique. Et je rajoute aussi que le secret médical, c'est le fondement de la médecine et que c'est parce qu'il y a un secret, parce que les gens peuvent, les personnes, les patients peuvent parler librement que on peut faire une médecine de qualité. Et il faut garder à tout prix ce lien de confiance entre les soignants et les soignés. Donc c'est vraiment ça, et c'était déjà ce qu'on défendait pour le Health Data Hub, c'est ce fondement même de la confiance et de la relation de soins. Sur le chiffrement, du coup, ce qui se passe pour les rendez-vous, et donc c'est tout à fait détaillé sur le blog d'Interop, ce qui est chiffré, ce sont les données au repos et les données en transit. Les données de repos, c'est les données qui sont, par exemple, une sauvegarde. C'est un ensemble de données au repos. Et donc, la sauvegarde, par exemple, est chiffrée chez Amazon aussi. Donc voilà, cette partie-là est chiffrée. Par contre, les clés de déchiffrement, il faut toujours se poser la question quand on parle de chiffrement, où est la clé de chiffrement? Et cette clé de déchiffrement, de toute façon, elle est chez Amazon aussi. Donc même si les données sont chiffrées au repos, donc là je parle vraiment d'un sous-ensemble, les données, la sauvegarde, de toute façon, les clés de déchiffrement sont présentes aussi, chez Amazon. Et donc, deuxième gros bloc de données chiffrées, c'est les données en transit entre le serveur et le navigateur. Donc là, c'est le protocole HTTPS. Le S de HTTPS, ça veut dire que c'est sécurisé. Mais donc, on voit que on décrit deux blocs chiffrés, les sauvegardes et les données entre le serveur et le navigateur du patient ou même du médecin, mais il y a plein d'autres étapes qui, à notre sens, ne sont pas chiffrées. Donc le serveur, typiquement le serveur, alors pour un peu plus les experts peut-être, le back-end qui accède aux données de la base de données, lui forcément a accès aux données, et ce back-end il est aussi chez Amazon. Donc voilà, il y a une partie des données à un moment donné, pour résumer, où les données sont de toute façon déchiffrées sur le serveur d'Amazon. Et deuxième grosse alerte de notre analyse technique, c'est que entre les serveurs Amazon et le navigateur des utilisateurs et des utilisatrices, il y a ce que l'on appelle Cloudflare, qui est une société soumise au droit américain, qui a des intérêts techniques. Donc on n'est pas en train de critiquer l'intérêt de mettre Cloudflare. Par contre, la problématique de Cloudflare, c'est que cette société et les serveurs de cette société américaine voient toutes les données passées en clair aussi. Donc il y a et ça c'est aussi un appel un peu peut-être aux plus geeks qui écoutent, et peut-être même la CNIL, de parler de Cloudflare et d'expliquer sur les réseaux c'est vraiment un point central qui présente une faille de sécu très très importante.
Merci, parce que je pense que ça a été relativement accessible, hein, mais clairement c'est un sujet qui est complexe, et j'invite vraiment les personnes que ça intéresse à aller voir on mettra le lien sur le site de l'April. Interop a fait un gros travail quand même d'explication avec des schémas, et pour rendre le sujet plus accessible, un sujet qui est vraiment pas évident sinon. Notre temps avance, j'aimerais quand même vous laisser le mot de la fin. Est-ce qu'il y a un point central sur lequel vous aimeriez venir, un point qu'on n'a pas abordé, qui vous paraît quand même essentiel avant que nous nous quittions? Adrien, Juliette, Juliette, Alibert.
Oui, non, je pense que pour moi, c'est essentiel en fait que sur ces contentieux importants, l'aspect juridique et l'aspect technique soient, enfin, qu'il y ait un travail en fait des techniciens avec les juristes. Et c'est vrai que ça a été un travail de fond très important qu'on a pu mener ensemble avec les parties, notamment avec Interop, pour faire valoir les enjeux en termes de garanties techniques. Et vraiment, c'est extrêmement dommage que la CNIL n'ait pas pu être saisie, d'autant que Adrien a expliqué, effectivement, rappelé tout ce qui a pu être démontré dans le cadre de l'audience. Mais ensuite, il y a eu un gros travail, parce qu'il y a des journalistes d'investigation qui notamment sont venus à l'audience, France Inter, une journaliste, et qui s'est saisie elle-même de la question, qui a fait les mêmes vérifications que celles que Interop avait fait et avait présenté à l'audience. Il y a plusieurs journalistes, un chercheur de l'INRIA, qui ont conclu qui sont arrivés aux mêmes conclusions que celles qu'on avait déployées. Donc ça montre bien que c'est important qu'il y ait une montée en compétences et en tout cas vraiment un travail entre les juristes et les techniciens, enfin, je ne sais pas comment les appeler, les geeks, sur ces sujets-là, parce que ça permet de mettre en exergue, enfin, de faire valoir l'absence de garantie, mais de façon très concrète. Et effectivement, je rejoins aussi Adrien, c'est un des points vraiment qui nous met en difficulté, c'est sur les données de rendez-vous qui ne seraient pas des données de santé. Ça, je pense que c'est une énorme alerte et qu'il va falloir être vigilant. Et les parties, de toute façon, n'entendent pas en rester là. C'est infondé d'un point de vue juridique, en tout cas à notre sens. Et la politique de vaccination et le Covid, effectivement, il faut répondre aux enjeux sanitaires, mais ça ne permet pas d'aller trop loin et de, en tout cas, revenir sur des acquis en termes de protection de la vie privée et du secret médical. Enfin, voilà.
C'est entendu, mais en tout cas, on va suivre votre lutte et vous soutenir autant que possible. Merci beaucoup, Adrien Parot, de la présidente de l'association Interop, Juliette Alibert, avocate au barreau de Paris. On rappellera les liens, notamment un lien pour soutenir, alors notamment financièrement, mais aussi par des contributions techniques, la superbe association Interop. Un grand merci à vous deux et je vous souhaite une bonne fin de journée et meilleurs voeux pour la continuation de votre combat.
Merci beaucoup pour l'invitation. Merci.
Plaisir. Alors, nous approchons de la fin de notre émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Alors, première annonce, et qui arrive imminente, juste après l'émission, nous vous proposons une session d'échange en visioconférence. Vous avez peut-être envie de nous poser des questions, nous faire des remarques. Voilà, ça commence à 17h. Sur le site visio.libravou.org, on pourra consacrer quelques minutes à un échange avant de rentrer chez nous. Et on débutera par la suite chaque samedi de 16h à 17h, à partir du samedi 27 mars. Voilà, c'est ce temps d'échange en visioconférence. Samedi 20 et dimanche 21 mars auront lieu l'édition 2021 de Libre Planète, qui est la conférence annuelle de la Free Software Foundation, de la Fondation pour les logiciels libres. Conférence, une session de conférence qui seront intégralement réalisées en ligne. Donc, on félicite d'ailleurs tous les bénévoles de la Free Software Foundation ainsi que les membres de l'équipe pour cette belle réalisation d'organiser un tel événement en ligne. Et bien sûr, ce seront des conférences en anglais et j'en aurai notamment moi-même le plaisir d'animer une conférence sur les actions de l'April samedi 20 à 17h55, heure française. Le mardi 30 mars sera un Libre à vous particulier, ce sera la 100e. Alors n'hésitez pas à nous envoyer des mots d'amour et à écouter l'émission, bien sûr. Vous trouverez de l'adresse de contact sur la page de l'April et on aura plein de cadeaux pour vous. Voilà, une émission qu'on essaiera de faire aussi exceptionnelle que possible. Je précise aussi que samedi 20 mars, l'April fera son AG, donc 100% à distance via le logiciel libre de visioconférence BigBlueButton. Alors c'est une AG importante mais réservée aux membres et j'en profite pour rappeler éventuellement les membres de l'April qui nous écouteraient qu'il est toujours temps de voter pour le conseil d'administration. Voilà, et retrouvez comme d'habitude toutes les actualités du libre sur l'agenda du libre, agendadulibre.org. Alors notre émission se termine. Je remercie bien sûr les personnes qui ont participé à l'émission, Vincent Calam, Valentin, Adrien Parot et Juliette Alibert. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Adrien Bourmeau. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudon, Olivier Imbert, Languin, Sylvain Kunzmann, bénévole à l'April tous, Olivier Grieco, bien sûr le directeur d'antenne de la radio. Et merci également à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur nos sites web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, le mardi 23 mars 2021, à 15h30. Notre sujet principal devrait porter sur madada.fr, un site associatif qui vous aide à faire des demandes d'accès aux documents administratifs. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve donc en direct mardi 23 mars. Et d'ici là, portez-vous bien.
Cause commune, retour sur 93.1 à 21h et retrouvez nos programmes sur cause-commune.fr.